Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. En janvier dernier, le ministère de la Santé marocain organisait avec l'Agence de biomédecine française le 6e colloque France-Maghreb sur la transplantation. Objectif principal de ce colloque 2015, trouver les moyens de développer le don et la greffe d'organes au Maghreb. Vous le savez, la greffe permet évidemment de sauver des vies, mais pour cela, il faut qu'un individu, vivant d'ailleurs ou décédé, ait fait part de sa volonté de donner ses organes. Et c'est là que les choses se compliquent, car en France comme au Maghreb, les donneurs ne sont pas assez nombreux. Alors comment favoriser le don d'organes? Où en sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie en termes de transplantation? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission avec tous les plus grands spécialistes de la greffe du Maghreb qui étaient présents à Fès lors de ce colloque. Mais tout d'abord, nous vous proposons une plongée dans le service de néphrologie au CHU Hassan II de Fès. C'est là que sont suivis les patients souffrant d'insuffisance rénale. C'est un reportage d'Igor Strauss. Bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Vous êtes donc allé dans ce tout nouveau CHU Hassan II de Fès. À quoi ressemble cet hôpital?
Eh bien, c'est un immense hôpital, un flambant neuf collé à l'université de médecine de Fès. Et personnellement, je me suis rendu dans le service de néphrologie, c'est-à-dire le service consacré aux maladies du rein. Et là, eh bien, je dois dire que j'ai été agréablement surpris, Claire. Le service est grand et fonctionnel avec un plateau technique extrêmement moderne. Imaginez, toute la pharmacie est informatisée, les médecins y ont accès avec leur empreinte digitale. Le réapprovisionnement en médicaments se fait automatiquement. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Il faut préciser que c'est l'avantage d'un hôpital très récent. Le CHU de Fès existe depuis une dizaine d'années, mais il a été entièrement refait en 2009, Claire.
Alors Igor, on va faire la visite du service avec le professeur Tariq Skali, qui est chef du service de néphrologie. Mais pour comprendre l'importance de ce service, il faut rappeler que la maladie rénale est un gros problème au Maroc. 1 million de personnes sont concernées sur une population de 34 millions et parmi eux, beaucoup arrivent à des stades avancés. Alors quand les reins ne fonctionnent pas, par exemple suite à du diabète ou à de l'hypertension non traitée pendant plusieurs années, les patients doivent faire une dialyse plusieurs fois par semaine et la greffe de reins permet justement de ne plus faire ces dialyses.
Au Maroc, en 2004, on avait 4800 patients qui étaient en hémodialyse chronique, peu de patients transplantés et pas de patients en dialyse péritonéale. Aujourd'hui, on est à peu près 15 000 patients hémodialysés, donc le chiffre a triplé en 10 ans. On est à quelques dizaines de patients en dialyse péritonéale et une activité de 50 greffés à peu près par an pour tout le pays, ce qui est encore très loin de répondre aux ambitions et aux besoins surtout du pays.
Loin de répondre à tous les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait ?
En fait, ce sont des vases communicants. Et si on se limite à prendre en charge des patients au stade terminal de la maladie rénale chronique, on s'en sortira jamais. Et je pense que aucun pays dans le monde ne pourrait s'en sortir avec une telle stratégie. On a des patients qui arrivent au stade terminal, on doit arrêter leur arrivée au stade terminal et donc prendre en charge des patients à des stades précoces de la maladie pour éviter tout cela ou au moins ralentir donc la progression vers cette maladie. Et pour ça, il faut traiter les 2 millions de diabétiques marocains, les suivre, les dépister et donc les prendre en charge. On a à peu près 30% des adultes marocains qui sont hypertendus qu'il faut prendre en charge et ces deux catégories représentent 50% des causes de maladies rénales chroniques arrivées au stade terminal. Donc rien qu'en agissant sur des maladies avec de vrais programmes intégrés de prise en charge, on arriverait à ralentir la progression vers le stade terminal. Deuxième partie de ces vases communicants, c'est faire sortir les patients du traitement de suppléance, c'est-à-dire de la dialyse, que ce soit hémodialyse ou dialyse péritonéale, en les greffant. Et avec 50 greffes par an, on n'arrivera jamais à répondre aux besoins, puisque je vous disais tout à l'heure, on est à 15 000 hémodialysés actuellement, plus ceux qui arrivent en dialyse chaque année. Et donc, il faudrait franchement, clairement, donner tous les moyens à la transplantation rénale pour qu'elle se développe et pour apporter une meilleure qualité de vie, une meilleure survie et donc libérer de la place finalement pour d'autres patients pour qu'ils soient pris en dialyse, puisque tout patient qui n'est pas greffé occupe cette place et ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre.
On peut y aller à la tête, on va aller à la tête. داك المرض
هذا كنعطيه له شي دواء. كاينه واحد البوماده كدال ديال هذا
التشلال وما دار له حتى شي حاجه لان اللسان ديالو هبط وهذا
ديال الهبوطيه ماشي ديال التشلال ماشي ديال هذا صافي.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je suis docteur Dami Fdois, donc je suis résidente en troisième année ici en néphrologie. Donc mon activité principale, c'est le médecin d'admission. Donc on voit les nouveaux malades adressés par un autre médecin pour l'orienter. Pour ce patient, il a été adressé par l'unité de radiologie devant la découverte récente d'une insuffisance rénale. Donc on a demandé l'échographie qui avait objectivé des reins de petite taille qui sont mal différenciés, chose qui est en faveur de la chronicité.
Donc quelle va être la marche à suivre pour ce patient ? Vous allez le revoir ?
Oui, bien sûr, on va le revoir. Et on va le suivre ici pour son insuffisance rénale chronique.
Et cette consultation, elle est gratuite aujourd'hui ?
Oui, lorsqu'on a Ramed, donc c'est gratuit, on ne paye rien.
Et là, le patient, il a...
Il est ramédiste.
Ah, vous dites comme ça ici, ramédiste.
Il est ramédiste, elle ramède, oui. Il ne paye pas.
Est-ce que depuis que ce système de soins gratuits avec le ramed pour les plus défavorisés a été instauré, est-ce que vous avez constaté une réelle augmentation de la fréquentation des hôpitaux et de cette première consultation?
Oui, bien sûr. Donc le ramed, elle a beaucoup facilité l'accès aux soins ici au CHU. C'est réel. Donc on a beaucoup de malades qui consultent et font des bilans puisque c'est tout gratuit ici à l'hôpital. Donc il y a une augmentation, oui.
Est-ce que je peux poser des questions à monsieur et madame ?
C'est pas grave, donc il n'y a pas de problème. Oui.
Juste, est-ce que vous pouvez demander donc à monsieur ou à madame, si monsieur n'avait pas été ramédiste, c'est-à-dire si monsieur n'avait pas eu accès gratuitement aux soins, est-ce qu'il serait quand même venu ?
Donc déjà le patient, il a seulement le reçu, il n'a pas la carte de ramed. Le ramed est en cours, donc malgré ça, il vient à l'hôpital pour se soigner. Donc il vient.
Est-ce que c'est un problème de devoir payer les soins ?
Oui, c'est vrai, c'est un problème et elle fait le maximum pour que le patient vienne à l'hôpital. Elle paye pour que le patient vienne à l'hôpital. Mais c'est un problème pour elle.
Et monsieur, vous faisiez quoi comme métier et où est-ce que vous habitez ?
Agriculteur. Donc,
il habite en ville ou à la campagne ?
Non, la campagne, les régions de Taounet. C'est
Ah, donc c'est loin pour venir ? Vous venez de loin ?
C'est loin.
À peu près 88 km d'ici à Defès. C'est difficile, ça coûte cher et c'est difficile de se déplacer à chaque fois ici.
Mais justement, est-ce que vous avez déjà renoncé à des soins ? En raison du coût des soins et du problème du transport.
Le plus souvent que le patient tombe malade et refuse de se déplacer à cause du problème d'argent, mais il y a parfois son fils qui l'aide pour qu'il se déplace et le donne l'argent pour qu'il se déplace. Mais vraiment, c'est un problème pour lui, le fait d'être loin de l'hôpital et pour se déplacer, il faut de l'argent, donc c'est un problème pour lui.
Bon, bah écoutez, merci. Choukran.
Choukran.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la transplantation rénale au Maroc avec ce reportage au cœur du service de néphrologie du tout nouveau CHU SN2 de Fès. Un hôpital très moderne donc, mais Igor Strauss, ça n'a pas toujours été le cas.
Non, loin de là, il y a encore une quinzaine d'années, il n'y avait que deux CHU pour tout le Maroc. Les habitants du nord du royaume devaient donc aller à Rabat et les habitants du sud à Casablanca. Alors dans ces conditions, évidemment, beaucoup de Marocains n'y avaient pas accès en raison des distances. Aujourd'hui, le Maroc tente de rattraper rattraper son retard. Le CHU de Fès en est l'illustration. Mais les médecins constatent que venir à l'hôpital n'est pas encore quelque chose de naturel. Certains Marocains ne s'y déplacent pas. Il faut encore faire évoluer les mentalités. Donc alors aujourd'hui, le service de néphrologie a une capacité de 24 lits qui sont toujours occupés. Plus de 150 patients y sont suivis pour des hémodialyses, ainsi que 45 patients greffés d'un rein, même si seuls 18 d'entre eux ont été transplantés au CHU de Fès.
Igor Strauss, avoir un hôpital moderne, c'est bien. Encore faut-il que les populations les plus pauvres puissent y avoir accès. C'est désormais le cas avec la création du RAMED, qui est une assurance maladie pour les plus démunis.
Oui, l'État marocain a créé le RAMED il y a environ 3 ans. Alors, le RAMED, c'est le régime d'aide médicale aux économiquement démunis. 8,5 millions de Marocains en bénéficient aujourd'hui. C'est bien, même si tous les plus démunis n'en bénéficient pas encore. Alors, dans une ville comme Fès et ses alentours, c'est essentiel. C'est une région montagneuse avec des villages isolés, tournés vers l'agriculture, donc pauvres. Et la plupart des habitants n'avaient donc aucune assurance maladie, ce qui évidemment limitait leur accès aux soins. Aujourd'hui, la situation s'est donc nettement améliorée, même si tout n'est pas parfait, car le RAMED n'est pas tout, comme le rappelle le professeur Tariq Skali, le chef du service néphrologie du CHU Hassan II de Fès.
On a quand même besoin d'autres sources d'aide à ces patients, et c'est pour ça qu'on a une association adossée au service qui apporte tout ce que le système ne peut pas apporter à ces patients-là. On a parlé tout à l'heure des patients qui arrivent au stade terminal et on disait qu'il faut freiner leur arrivée au stade terminal. Si ce système RAMED leur fournit tous les soins nécessaires à l'hôpital, ce n'est pas à l'hôpital que se fait la prévention. La prévention se fait ailleurs et les médicaments doivent être reçus ailleurs et ce n'est pas couvert par ce système-là. Et donc l'ONG ou association vient ici pour soutenir cette activité de prévention et aider ces patients-là.
Retenez.
Ici c'est l'unité de dialyse péritonéale qui vient d'être aménagée.
Alors, un petit mot justement sur la dialyse péritonéale.
D'accord.
Parce qu'il y a deux formes de dialyse, donc il faut expliquer.
Oui, donc quand un patient arrive chez nous, on lui dit toujours qu'il a besoin d'une technique pour remplacer le fonctionnement de ses reins non fonctionnels. Et on lui dit d'emblée qu'il a la possibilité d'avoir un des trois traitements. Et donc, ces trois traitements sont la dialyse dans ces deux formes, hémodialyse et dialyse péritonéale, et transplantation rénale, qui est elle-même subdivisée en transplantation à partir de donneurs cadavériques ou à partir de donneurs vivants. Et donc, en général, les patients connaissent l'hémodialyse et ils connaissent beaucoup moins la dialyse péritonéale puisqu'elle n'était pas très bien développée. Et donc, le principe, c'est qu'on ait un échange entre deux compartiments, le compartiment sanguin et un autre compartiment. C'est la cavité péritonéale. C'est une cavité qui est virtuel, on dit aux patients vulgairement le ventre, qu'on remplit avec une solution qui va permettre cet échange, qu'on appelle le dialysa. Et cet échange-là permet de retirer les déchets, entre guillemets, donc d'épurer le sang. Ça a le grand avantage de permettre une vraie autonomie des patients. Et on a vécu un drame qui nous a poussé à décider de commencer la dialyse péritonéale sans attendre. Il a neigé il y a 3 ans abondamment. Et on avait un patient qui venait d'une région voisinante qui ne pouvait plus rejoindre son centre d'hémodialyse. Donc il nous téléphonait matin et soir en nous disant « je ne peux pas venir, je n'ai pas de moyen d'accès, etc. » Et malheureusement, au bout de 3 jours, il n'appelait plus. Et on a appris qu'il était décédé. Et donc, quand on vit une situation pareille, on ne peut pas se permettre de ne pas proposer à nos patients une solution de remplacement. Et donc maintenant, nos patients choisissent eux-mêmes la technique qui leur convient. Donc ici, juste à côté,
la fameuse salle d'hémodialyse, justement.
La salle d'hémodialyse aiguë.
On peut s'approcher, vous pensez, ou pas?
Oui, mais on peut s'approcher,
ça,
mais
on met les chaussons d'abord.
Oui.
Merci. Est-ce qu'il faut un masque aussi ou...
C'est pas la peine. C'est, d'accord, c'est une fistule, donc c'est pas la peine.
Donc nous avons mis nos chaussons.
Oui, et donc nous avons un patient qui va commencer sa séance de dialyse. C'est un hémodialysé chronique et qui est hospitalisé actuellement pour une gêne respiratoire et une évaluation de son état cardiovasculaire. Et en parallèle, il est dialysé ici le temps d'avoir ces explorations-là. Séance de dialyse qui va durer chez lui 4 heures.
C'est 4 heures quand même.
C'est 4 heures quand même, oui. Et
donc c'est contraignant pour les patients quand même.
C'est très contraignant et c'est l'une des raisons pour lesquelles nos patients cherchent à être greffés. Mmh. C'est moins d'autonomie puisqu'il faut compter non seulement les 4 heures mais aussi tout le transport, les déplacements, la fatigue après la séance, etc. 3 fois par semaine, ça fait
tout à fait. Oui, donc pour mener une activité normale, s'occuper de sa famille, c'est problématique forcément.
Oui, et on a beaucoup de patients qui perdent leur emploi à l'occasion de la découverte de la maladie rénale chronique. Et donc tout un volet extra-médical à gérer en parallèle. Et le comble, c'est que certains, en perdant leur emploi, perdent leur couverture sociale qui leur permettait d'avoir accès aux soins. Et donc, c'est un cercle vicieux et la situation ne fait que s'aggraver. Et donc, on a même, parfois, en tant que médecin, sollicité l'intervention d'avocats pour défendre nos patients contre les licenciements abusifs.
Mais alors, quelqu'un qui est licencié abusivement, justement, ne peut pas basculer directement au régime RAMED, à savoir les plus démunis. Ça, c'est pas automatique?
Ce n'est pas automatique. Il y a une base de données nationale qui répertorie les patients qui disposent de la CNSS ou de la CNOPS, qui sont les organismes de prévoyance sociale classiques pour les patients ayant un emploi, et qui interdit bien sûr l'inscription en régime RAMED tant qu'ils sont inscrits. Et donc il faut le temps de les retirer de cette liste, de justifier l'indigence, de faire l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui se fait pour éviter justement l'inscription,
les abus,
etc. Et donc toute la procédure prend quelques semaines, voire quelques mois, et il faut assurer ce relais-là. Côté ici, on a l'unité de fameuse unité
d'accès interdit à toute personne étrangère au service.
Vous n'êtes plus étranger puisque vous êtes nos invités, et donc on va s'habiller pour
port de vêtements spéciaux obligatoires, port du masque obligatoire
pour voir nos patients transplantés. Donc je vous disais tout à l'heure, on a deux patients qui viennent d'être transplantés, qui sont hospitalisés ici. Ce sont des greffes programmées, donc à partir de donneurs vivants, apparentés. Et donc, on a aussi la possibilité de faire des greffes en plus à partir de donneurs décédés. C'est l'inverse de ce qui se passe en Europe. En Europe, c'est l'activité de donneurs décédés qui est la majoritaire. Et chez nous, c'est l'inverse.
Comment on l'explique ça, justement?
Pour faire du prélèvement sur donneur en état de mort encéphalique, c'est-à-dire décédé, il faut que la logistique soit bien rodée, puisque les greffes qui sont faites à partir de donneurs apparentés sont programmées, comme je vous le disais. Je vous dis d'emblée qu'au mois de juin, le dernier mardi, il y aura une greffe. Par contre, celles qui sont faites à partir de donneurs décédés peuvent se faire à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et en présence de tout le monde. Et dans un CHU jeune, on n'avait pas suffisamment d'équipe pour assurer les roulements 24 heures sur 24. Heureusement, après quelques années, maintenant on a 5-6 ans d'existence, et on est maintenant prêt à recevoir des donneurs à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit.
Mais vous l'avez déjà fait, du coup ?
On l'a fait deux fois, mais on aurait pu en aborder beaucoup plus. Ça soulève un problème éthique et de moyens, puisque pour prélever un donneur décédé, ça sous-entend qu'on continue la réanimation après le décès pour assurer une bonne perfusion de ses organes, etc., pour qu'il soit viable pour une greffe. Et ça sous-entend qu'il occupera une place à part entière en réanimation après son décès. Et on ne peut accepter une telle situation que si tous les patients qui ont besoin d'une place en réanimation trouvent leur place, les patients vivants trouvent leur place. On ne peut pas privilégier un patient décédé, même si c'est un donneur d'organes, par rapport à un patient qui a besoin d'une place en réanimation. Et donc, il fallait d'abord assurer ce minimum pour nos patients. Et dans le CHU maintenant, nous avons 3 services de réanimation qui assurent un roulement très important pour tous ces patients nécessitant la réanimation.
Et comment c'est perçu par les familles ?
On ne peut aborder une famille que si elle a senti que tout a été fait pour sauver la personne qui vient de décéder. On ne peut pas demander à quelqu'un qui sent qu'il y a eu un manque de prise en charge d'être donneur par la suite.
Bon, alors on est devant la porte, on entre,
oui,
on vient s'habiller.
Oui.
Ah, donc il y a 3 messieurs. Bonjour messieurs.
Bonjour. L'équipe au complet, un médecin, un infirmier, un soignant.
Qu'est-ce que je fais ? J'enlève mon matériel d'abord et je peux le remettre au-dessus ? Il faut que le matériel soit en dessous.
Igor Strauss, on vous laisse revêtir une tenue de bloc et puis on vous retrouve en compagnie d'un patient qui vient d'être greffé d'un rein. Restez avec nous, on se retrouve donc dans un peu plus de 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Nous sommes toujours à Fès au Maroc où avait lieu en janvier dernier le 6e colloque France-Maghreb sur la transplantation organisé par le ministère de la Santé marocain avec l'agence de biomédecine française. Alors ce colloque qui réunissait tous les plus grands spécialistes de la greffe du Maghreb avait pour objectif de développer le don et la greffe d'organes au Maghreb. On y reviendra dans quelques minutes mais tout d'abord suite de notre reportage au sein du service de néphrologie du CHU Hassan II de Fès. Igor Strauss et le professeur Tarek Skali, le chef du service de néphrologie, ont mis leur tenue de bloc. Ils sont donc prêts à rencontrer un patient qui a été greffé d'un rein la semaine précédente.
Je m'appelle Raïs Abdelrahim, j'ai 38 ans, je suis un enseignant au lycée. Au début, c'était difficile de définir que c'était une insuffisance rénale parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. Il y a l'atteinte du visage qui est devenue plus mat parce que c'est l'anémie qui se mettait en place. Il y avait des douleurs ici en arrière du cou. C'est à cause de la pression artérielle qui montait, l'hypertension. J'avais du mal à la gorge. On disait que c'était seulement une pharyngite. Mais puisque j'avais cette teinte qui devenait très sombre plus tôt, je suis allé chez un médecin, j'ai demandé de faire le bilan sanguin. Avec une grande surprise, j'ai découvert que c'était insuffisance rénale au stade terminal. La seule chose qu'on peut faire, c'est soit l'hémodialyse, soit la greffe. Donc à ce stade-là, la greffe était encore très loin. Donc la seule chose qui se présente, c'était l'hémodialyse. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé la dialyse pendant cette période-là de 1 an et 8 mois.
Et c'était pas trop contraignant la dialyse?
Bien sûr que c'est contraignant, c'est 3 jours par semaine que tu dois partir vers le centre, 4 heures, tu es loin de la maison, tu peux pas travailler. D'ailleurs, même la dialyse, elle aussi, elle est très fatigante. Le matin, je le passe au centre de dialyse. L'après-midi, je dois faire une sieste de 2 heures, 3 heures pour se reposer, pour reprendre mes forces. Donc la journée de dialyse, c'est vraiment une journée négative pour moi et pour toute la famille, mes enfants et ma femme. Donc ceci pousse à chercher d'autres solutions. Et après, ma sœur était la plus présente et la plus positive pour cet acte-là. Et on a commencé les bilans biologiques, les bilans radiologiques, les bilans, tout ça, on a commencé tous les deux à les faire. On a commencé ça, c'est le 22 novembre. Louange à Dieu, on est au 30 décembre, on a déjà fait la transplantation.
Ah donc en 1 mois et demi c'était fait?
Oui, 1 mois et demi c'était suffisant, mais c'était vraiment express. Chaque jour on était chez un docteur, toutes les spécialités on les a visitées pour faire ce bilan avant greffe.
Et vous, avant la greffe, dans quel état d'esprit vous étiez? Est-ce qu'il y avait quand même une certaine appréhension? C'est pas un acte anodin, et en plus c'est le rein de votre sœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bon, il y avait une confiance qui s'installait petit à petit. Même ma sœur m'encourageait, c'était pas quelque chose. Si je voyais quelque chose de négatif chez ma sœur, j'aurais pu moi aussi revenir en arrière. Mais c'est ma sœur qui me poussait, qui faisait beaucoup d'efforts. Même, il me montrait toujours son côté positif et elle était très décidée qu'on va terminer ce processus. Ouh, louange à Dieu, ça s'est passé très très vite, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça s'est bien marché, alhamdoulilah.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
Très très bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de douleur, l'échographie a montré que tout s'est bien passé.
Et votre sœur, comment elle va?
Elle est déjà sortie, elle va être très bien, je le téléphone tous les jours, elle est donc un petit peu de fatigue, c'est normal, mais elle a repris sa vie normale.
Alors, elle a repris sa vie normale? Et vous allez reprendre une vie comment? C'est une nouvelle vie qui commence?
On se considère comme des petits bébés qui viennent de se naître.
C'est vrai à ce moment-là?
Oui, parce que tout le monde nous traite comme ça. Même ici, même la maison, même les amis.
Au niveau du coût du financement, est-ce que ça a été un problème? Comment ça se passe?
Non, puisque je suis mutualiste, pour moi ça n'a pas été un problème. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la mutuelle qui prenait en charge toute l'opération, je ne pourrais pas la faire, c'est sûr. Ma sœur qui n'est pas mutualiste, donc c'est moi qui ai pris en charge tous les examens de l'avant-greffe.
Et l'opération aussi, c'est ça?
Non, l'opération de ma sœur, elle est sous la charge de ma mutuelle. Donc, seulement les consultations des médecins avant la greffe, c'est ça que je devais payer pour elle. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés.
Et en gros, ça s'est élevé à combien? Vous avez une idée?
Ça pourrait aller vers les 3 millions de centimes.
Ça fait 2500 euros. Mmh. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bon rétablissement.
Merci beaucoup.
Igor Strauss, la greffe pour des patients souffrant d'insuffisance rénale au stade terminal, c'est vraiment la solution idéale.
Oui, même si c'est une opération lourde et qu'après il faut prendre un traitement immunosuppresseur à vie pour éviter les rejets, c'est ce qu'il y a de mieux puisqu'on n'est plus dépendant de l'hémodialyse qui est très contraignante, vous l'avez entendu.
Quels sont les objectifs du CHU de Fès concernant justement la greffe du rein?
Bien, l'objectif pour cette année 2015, c'est de réaliser 2 greffes par mois pendant 10 mois, soit 20 greffes par an en tout. Pour rappel, en 2014, il n'y avait eu que 8 greffes au CHU de Fès. Donc l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de transplantations d'année en année pour répondre à une demande toujours croissante. Mais ces chiffres concernent les greffes sur donneurs vivants, car le Maroc ne fait pratiquement pas de greffes sur donneurs en état de mort cérébrale. Pourtant, techniquement, le pays en a les moyens, mais trouver des donneurs est très compliqué, car la population n'est pas suffisamment informée. Du coup, bien rares sont ceux qui, de leur vivant, pensent à dire à leur entourage qu'ils souhaitent donner leur organe une fois décédé. Il y a donc tout un travail de sensibilisation, d'information à mener pour le grand public.
Il y a une question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, c'est est-ce que le Maroc a pris des dispositions pour éviter les abus, voire le trafic d'organes?
Ah oui, tout est très surveillé. En 1998, il y a eu un texte de loi très clair à ce sujet. Alors concernant les donneurs vivants, il faut qu'ils soient apparentés au receveur. En clair, on ne peut donner un organe qu'à un membre de sa famille, et ce pour éviter justement que l'organe ne devienne une marchandise à vendre. Ensuite, bien c'est le président du tribunal de première instance qui accorde ou non l'autorisation finale de la greffe. Et c'est le procureur du roi qui reçoit les donneurs vivants pour s'assurer qu'ils sont bien apparentés au receveur.
Le Maroc est un pays où la religion est très importante. Est-ce que les imams ont été associés au débat sur la transplantation?
Bien, c'est vrai que le don ou la greffe d'un organe soulève des questions éthiques, morales, voire religieuses. Et du coup, bien dès le début, les imams ont été consultés. Résultat, ils ont autorisé la greffe en montrant qu'il n'y avait aucun problème religieux. Et pour la petite histoire, Claire, il y a même un imam qui a accepté que l'on prélève le rein d'un de ses fils. Tout ça pour montrer que transplantation et religion n'étaient pas antinomiques.
Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à réaliser une greffe à partir d'un donneur vivant. C'était en 1985. Mais l'équipe était composée de chirurgiens américains et de réanimateurs français. Il a fallu attendre 1990 pour voir la première greffe réalisée par une équipe entièrement marocaine. Retour sur l'histoire de la greffe au Maroc avec le professeur Benyounes Ramdani, chef du service de néphrologie au CHU de Casablanca et président du conseil consultatif de transplantation d'organes humains au Maroc.
L'expérience de greffe au Maroc a débuté en 1990 avec une équipe entièrement marocaine. En totalité, en 10 ans, on avait fait 44 greffes avec quelques échecs. Les échecs étaient surtout dus aux techniques chirurgicales et à la chirurgie. Et on s'est dit, on arrête, on fait notre bilan, on fait notre autocritique et puis on avance par la suite après avoir vu un peu toutes les difficultés, qu'est-ce qui nous manque, etc. Et là est arrivée la première collaboration avec l'établissement français de greffe qui avait comme objectif à ce moment-là de démarrer la greffe à Rabat, de faire aider l'équipe de Rabat à démarrer la greffe et Casablanca à redémarrer la greffe une fois sur des bases, disons, plus saines, etc. Et donc, il y a eu des périodes de formation. Et puis finalement, à partir, disons, de 2002-2003, il y avait une autonomie des équipes marocaines qui ont continué à travailler et bien sûr, on a vu progresser parce qu'en même temps que les greffes, il y a eu formation de toutes les spécialités qui sont à cheval de la greffe.
Lesquelles, par exemple?
L'anatomopathologie, par exemple, pour le diagnostic des rejets lorsqu'on fait des biopsies. La virologie, l'immunologie, pour pouvoir faire les bilans, pour pouvoir détecter les complications. Et donc, tout ça, ça a été fait grâce à la collaboration avec l'agence de biomédecine. Voilà donc un peu l'historique de la greffe rénale au Maroc.
Le professeur Ramdani parlait de l'établissement français des greffes, devenu aujourd'hui l'agence de biomédecine, une agence que les Marocains nous envient, puisqu'il n'y en a pas au royaume chérifien. Alors, quel est le rôle d'une telle agence? Quelle est la situation en Tunisie, en Algérie et au Maroc? Le docteur Karim Laou Abdia est directeur général adjoint de l'agence de la biomédecine française, en charge de la politique médicale et scientifique.
Pour éviter toute dérive marchande, il est essentiel d'avoir au moins un encadrement législatif, réglementaire, éthique et une organisation nationale qui puisse gérer ces activités d'utilisation des éléments et des produits du corps humain. De même, dans l'attribution des organes, il faut éviter tout arbitraire qui entraînerait obligatoirement une méfiance de la société, une méfiance des citoyens. Il faut élaborer des critères d'attribution qui reposent sur des principes d'équité, des principes éthiques, qui permettraient effectivement à tout citoyen d'avoir accès à la greffe.
Mais est-ce à dire que avant, le fait d'attribuer un organe à un patient n'était pas fait sur des critères purement médicinaux, mais qu'il y avait d'autres considérations qui entraient en jeu?
Avant, en France particulièrement, on sait très bien qu'il y a eu des problèmes liés à l'utilisation des greffons. En plus, l'attribution, ça reposait sur quelques personnalités, donc il y avait une attribution qui n'était pas très claire, même s'il y avait des critères d'attribution déjà à l'époque. Mais le gouvernement a estimé à l'époque que pour avoir une distance, une véritable équité et un accès à la greffe pour tous les citoyens, il valait mieux avoir une vision nationale de la greffe et non pas une vision centre par centre. C'est pour ça que quand on parle des pays du Maghreb, clairement, ce que les Tunisiens ont fait très tôt, c'est la mise en place d'une agence nationale qui s'appelle le CNPTO, qui est le Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes, pour effectivement regrouper toutes les informations concernant les donneurs et les receveurs, concernant la prise en charge des donneurs décédés et le prélèvement, et aussi il y avait une banque de tissus. Donc ils ont très clairement intégrer ça dans une agence nationale. Parce que très tôt, la Tunisie a démarré la greffe et a progressé très rapidement. Il y a eu des ralentissements ces dernières années qui sont plus dus à des événements externes, hein, je veux dire, ce qui s'est passé en Tunisie, mais ils étaient quand même assez, dès la fin des années 2000, très, très, très performants. En Algérie, l'agence a été créée il y a à peu près 2 ans. Elle a été fonctionnelle 6 mois, puis elle s'est arrêtée. Et aujourd'hui, elle n'est pas opérationnelle, comme l'ont dit nos amis algériens, le gouvernement, à l'intention de la relancer, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait qu'en général, c'est chaque centre fait un petit peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de coordination ni d'organisation nationale et une vision de politique de santé publique sur le prélèvement et la greffe en général. Au Maroc, c'est avec une coopération avec l'agence de la biomédecine qui date depuis la fin des années 90. Effectivement, il y a eu des décollages. Il y a 4 centres aujourd'hui au Maroc. Il y en avait 2 au début des années 2000. Donc, c'était peut-être pas le moment non plus de créer une agence. Faut pas créer aussi une agence pour créer une agence. Ça n'a pas de sens non plus quand il y a une petite activité. L'important, c'était de mettre en place un cadre législatif et réglementaire, de mettre en place des critères d'attribution centre par centre. Mais aujourd'hui, on le voit très bien au Maroc et les professionnels le ressentent, c'est qu'ils sont arrivés à un degré de maturité qui fait qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir une organisation qui soit au-dessus des professionnels, parce que ce n'est pas aux professionnels de faire, ils peuvent le faire la promotion du don, ils peuvent le faire eux-mêmes dans leur hôpital, dans leur environnement, mais c'est des visions nationales qu'il faut avoir sur la promotion du don, et en plus, il faut évaluer les pratiques. Il faut évaluer les résultats des greffes et améliorer les performances des équipes. Et ça, il n'y a qu'une agence nationale, sous contrat avec le ministère de la Santé, qui puisse faire ce genre d'évaluation de la qualité des pratiques et d'améliorer les pratiques des professionnels.
Priorité santé, reportage.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI et aujourd'hui nous sommes à Fès, au Maroc, pour parler du 6e colloque France-Maghreb sur la transplantation. Pendant 3 jours, tous les plus grands spécialistes de la greffe du Maghreb étaient réunis pour réfléchir aux moyens de développer le don d'organes. C'était au mois de janvier. Alors à quoi sert ce type de colloque? Réponse d'Anne Courrèges, la toute nouvelle directrice générale de l'Agence de la biomédecine qui organisait l'événement avec le ministère de la Santé marocain.
Quelles que soient nos particularités, nous sommes confrontés tous autour de la Méditerranée à des problèmes qui sont très similaires et un même défi qui est de réussir à développer l'activité de greffe dans chacun de nos pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un simple congrès scientifique, c'est bien une plateforme d'échange d'expériences où on va sur des actions, travailler sur des dossiers très concrets pour essayer d'avoir, de développer des bonnes pratiques et d'avoir des partages d'expériences et des retours d'expériences. Et la préoccupation de l'agence, c'est d'aider ces pays à développer leur activité avec un seul objectif qui est finalement de sauver des vies, puisque c'est bien ça l'objet de la greffe.
Alors vous êtes la toute nouvelle directrice. Quels sont vos futurs axes de réflexion? Qu'est-ce que vous souhaitez développer au sein de l'agence?
Les priorités de l'agence, c'est de développer l'activité de greffe en essayant de diversifier les types de prélèvements. En France, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur le prélèvement sur donneurs décédés. Aujourd'hui, une des priorités qu'on doit avoir, ça doit être aussi le prélèvement sur donneurs vivants. Il y a quelques années, on était sur des chiffres de l'ordre de 6-7%. Actuellement, on est arrivé à 16%. L'objectif, par exemple, en 2016, autour de 2016-2017, c'est d'arriver à 20%. Donc, il y a un travail très important d'information sur l'existence de ce don, de développer ce qu'on appelle le cercle des donneurs vivants, les gens qui sont susceptibles de donner, de travailler avec les équipes et de former les professionnels, parce qu'il faut aussi lever des obstacles. Et donc ça, c'est une priorité importante. On parlait de la greffe de rein tout à l'heure. Il est important de travailler avec les centres de dialyse, parce que finalement, c'est eux qui sont en contact avec les personnes les plus sensibles. Et c'est comme ça qu'on peut espérer développer le don vivant. C'est ce genre d'action qu'il faut absolument mener. L'important, c'est toujours de toujours se poser la question à soi-même et d'en parler à ses proches, c'est qu'est-ce qu'on voudrait faire pour soi et pour les autres. Le don éthique, c'est un don altruiste. Et donc tout ce que je peux conseiller à chacun, c'est de parler de sa position à ses proches. Il est très important de le faire, car comme ça, vous pourrez peut-être sauver des vies.
Pendant de nombreuses années, la Tunisie a joué le rôle de leader en termes de transplantation au Maghreb. Le pays s'est rapidement doté d'une agence. Les critères d'attribution d'un organe ont été revus pour être plus équitables et purement médicaux. Rappelons qu'auparavant, une personne qui avait un emploi ou une personne mariée était favorisée par rapport à un chômeur ou à un célibataire. Bref, la greffe se portait plutôt bien dans un pays où 12% des adultes sont diabétiques, près de 30% hypertendus, ce qui fait le lit de l'insuffisance rénale. Mais la révolution de Jasmin en 2011 et d'autres événements particuliers ont eu des conséquences directes sur la transplantation. Le professeur Tayeb Ben Abdallah, professeur en réanimation médicale et chef du service de néphrologie de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis.
Ce qui a changé après donc la révolution, c'est surtout le nombre donc de greffes rénales. On est arrivé à maximum en 2009 ou 2010 à 148 pour la Tunisie, toute la Tunisie. En 2011, évidemment, il y avait des mouvements où on ne pouvait pas sortir le soir. Il y avait des mouvements de couvre-feu où il y avait des comas, il n'était pas question de prélever. Et malheureusement, l'élément le plus important, il y avait une émission dans une chaîne télévisée qui décrit un peu un prélèvement sur une personne décédée. Et ceci, ça fait un scandale un peu, qui était mal interprété par les gens. Ça fait baisser beaucoup même l'activité à partir des prélèvements donc de rein de cadavre.
Pour être clair, il y a eu donc une émission télé où, si je ne m'abuse, on a parlé de trafic d'organes. Et ça, ça a eu une très mauvaise influence sur les dons d'organes, c'est ça?
Malheureusement, cette année 2014, le mois de Ramadan dernier, il y avait une série télévisée qui parlait d'une série donc de problèmes, en particulier la drogue, la prostitution et le trafic d'organes. Et on est convaincu maintenant qu'elle a fait un effet néfaste. Nous ne sommes pas encore arrivés à remonter la pente. Et c'est pour cela que durant ce séminaire, nous avons une équipe des médias avec nous pour essayer de repartir sur de meilleures bases en termes de sensibilisation, d'information pour la promotion donc du don d'organes.
Mais y a-t-il en Tunisie, dans l'ensemble du Maghreb, un trafic d'organes?
Moi, je suis catégorique, formel. Je défie toute personne qui peut me confirmer qu'il y avait un trafic d'organes. Il y a une démarche administrative et juridique et médicale tellement lourde et qui est obligatoire, et toute infraction donc à ce processus, elle est punie par la loi très sévèrement, d'une part. Deuxièmement, c'est un processus qui implique des dizaines de personnes qui doivent travailler ensemble. Donc c'est difficile d'imaginer qu'on peut s'entendre pour réaliser ce genre d'intervention. Troisièmement, l'intervention elle-même, elle est compliquée, elle implique différents intervenants. Et quatrièmement, toute personne qui va être greffée, elle est obligée d'avoir un traitement. Et ce traitement n'est pas vendu donc en pharmacie, donc d'officine de libre pratique. Il est vendu dans les hôpitaux ou bien livré par les caisses de sécurité sociale. Donc, c'est impossible qu'il puisse y avoir un trafic, et je doute fort qu'il y ait eu un trafic quelconque au Maghreb.
Quelles sont les perspectives d'avenir pour la Tunisie?
Bon, on espère, sinon on ne serait pas là. Pour revenir au thème de ce colloque, des outils pour améliorer donc l'activité rénale. Donc, il y a différents facteurs. Premièrement, la greffe à partir du don vivant, elle ne peut pas répondre à tous les besoins. Au maximum, on pourra couvrir les besoins de 50% des malades. Donc, les autres, ils doivent bénéficier d'un greffon à partir d'un sujet décédé. Donc les deux activités doivent exister. Actuellement, on n'arrive pas à greffer rapidement les malades qui ont un donneur vivant. C'est-à-dire qu'il y a un retard, nos capacités ne sont pas suffisantes pour prendre en charge ces patients dans des délais de quelques semaines à quelques mois. Donc il y a une obligation d'améliorer les conditions d'accueil dans les unités où il y a la transplantation rénale. Et le but, c'est d'arriver dans chaque unité un minimum de ces comptes de transplantation dans les 4-5 années à venir. Deuxièmement, pour le volet de donneurs cadavériques, c'est un problème de médecine générale. Vous savez, dans tous les pays du Maghreb et ailleurs, il y a un grand nombre d'accidents de la voie publique. Et c'est la source principale des suicides en état de mort céphalique. Je prends l'exemple de la Tunisie, il y a plus que 1500 accidents mortels en Tunisie.
Par an, par mois, par...
Par an, 1500. Or, actuellement, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a 1600 de personnes qui attendent un rein. Donc, le calcul est simple, on a 1500 de sujets qui meurent suite aux accidents, mais on prélève, pour différentes raisons, que 4-5. Donc, il faut travailler à augmenter le nombre des donneurs potentiels. Pour cela, il faut améliorer les conditions de prise en charge des accidentés, et ensuite, donc, le pourcentage de déclaration. Ce qui fait, c'est un travail de longue haleine.
En France, comme au Maghreb, le constat est le même, on manque de donneurs. Pour inciter les gens à donner, il faut donc les informer, les sensibiliser. En ce sens, les associations de patients ont un rôle fondamental à jouer, mais elles sont encore très peu nombreuses au Maghreb. En Algérie, l'association Don d'organes Biloba mène des campagnes de sensibilisation régulières. Abdourezak Zoubouch est le vice-président de Biloba.
Il y a des campagnes qui sont faites par le gouvernement, mais qui restent en deçà de ce qu'il faut. Donc nous essayons d'appuyer justement et de faire un complément afin que chacun de nous se sente concerné par ça et se sente obligé de prendre une décision, mais basée sur des connaissances solides. C'est-à-dire savoir que la législation le permet, c'est-à-dire que ça se fait dans un cadre réglementé, que la technique est maîtrisée médicalement, ça veut dire qu'on peut faire confiance aux médecins qui font la greffe, et aussi, et ce qui est la particularité des pays du Maghreb, la dimension religieuse qui est très importante et qui prend le dessus un peu, si j'ose dire, par rapport aux autres domaines. Et dans ce sens-là, on fait appel à des imams qui nous expliquent la position de la religion, qui nous expliquent que c'est permis, qu'il n'y a pas de barrière interreligieuse, et ça, c'est un facteur déterminant. Et on ajoute à ça l'action ou le témoignage d'un donneur ou d'un receveur qui reste un moment très émouvant et qui à ce moment-là induit une sorte d'émotion dans la salle, et c'est là où les gens prennent leur décision finale.
Vous parlez du facteur religieux. Concrètement, quelles sont les craintes à ce niveau-là ?
Alors, l'islam, comme toutes les autres religions, donne une sacralité au corps. Et là, c'est le rôle de l'imam d'expliquer qu'il y a des exceptions et que les exceptions sont permises en islam comme dans d'autres religions, et qu'au contraire, ça devient un devoir de donner pour sauver une vie.
Pour finir cette émission, je vous propose un témoignage assez rare. Ce témoignage, c'est celui d'André Le Tutour, aujourd'hui président de la Fédération nationale des transplantés hépatiques en France. Il a été greffé du foie il y a 25 ans et se porte à merveille.
Dans la première année, il y a bien sûr des visites qui sont fréquentes au centre de référence, au centre de transplantation, pour s'assurer d'abord que le greffon fonctionne parfaitement, pour adapter aussi les traitements immunosuppresseurs, puisque bien entendu c'est un traitement à vie, que j'ai toujours évidemment, qui est toujours le premier traitement d'origine, avec des doses bien sûr qui régressent au fil du temps. C'est pas une contrainte, parce que c'est quelques médicaments matin et soir, c'est pas plus compliqué que lorsqu'on a, je sais pas moi, de l'hypertension ou toute maladie, on doit prendre sa pilule matin et soir ou une fois par jour. Donc ça, c'est pas des contraintes. Au niveau des effets secondaires, il n'y a pas eu d'effets secondaires. Alors peut-être au départ, mais les choses ont quand même changé depuis. C'est vrai, il y a 25 ans, il y avait moins de connaissances sur les traitements, des doses qui étaient quand même beaucoup plus fortes, qui entraînaient quelquefois voilà, un peu de poils qui poussaient, mais moi ça m'a pas gêné beaucoup.
Et vous puis, êtes barbu, je précise.
Voilà, je suis barbu. Et puis il y avait aussi un petit peu d'embonpoint lié au corticoïde. Maintenant, les choses ont été réglées puisque les traitements sont beaucoup plus adaptés. Les techniques chirurgicales ont aussi beaucoup, beaucoup évolué. À l'époque, moi, c'était 15 heures de bloc opératoire. Maintenant, 6-7 heures, on fait une transplantation hépatique. Les gens se lèvent très vite. Au bout de 9 jours, sortent. C'est miraculeux. C'est une greffe qui marche bien, la transplantation hépatique. Donc, non, j'ai une vie tout à fait normale. Tout à fait normale.
Tout à fait normale. C'est-à-dire que vous avez pu retravailler normalement.
Oui.
Vous pouvez faire du sport comme vous le voulez. Comme il s'agit du foie, est-ce que vous pouvez boire de l'alcool, par exemple, manger ce que vous souhaitez, ou est-ce que vous avez quand même certaines précautions à prendre ?
Il n'y a aucune contre-indication sur le plan alimentaire. La question de l'alcool est à proscrire, évidemment. Cela dit, je ne vais pas vous cacher que quand il y a un anniversaire ou quand il y a une fête quelconque, s'il y a un petit peu de champagne à prendre, je le prends. Mais c'est de manière très, très limitée. C'est comme toute chose, faut pas exagérer.
Votre donneur était une personne décédée ou est-ce que la possibilité d'avoir un donneur vivant, notamment de votre propre famille, a été soulevée à un moment ?
Alors ça n'existait pas en don du vivant, ça se fait uniquement pour les enfants, la greffe pédiatrique. Entre adultes, c'est pas recommandé, il y a des risques quand même de morbidité. Et c'est la greffe hépatique donneur vivant en France n'est pas développée. J'ai vraisemblablement, bien sûr et même sûrement, eu le foie d'une personne qui est décédée dont je n'ai aucune connaissance, puisque le don est anonyme et gratuit, alors j'y pense souvent, notamment le jour de la date anniversaire de ma greffe, parce que je me dis que je suis en vie, mais il y a une famille qui a été éprouvée par la douleur, parce qu'ils ont perdu aussi un être cher. Alors ça m'aide aussi à vivre. On est tous pareils, de temps en temps on a un peu moins la pêche. Dans ces moments-là, je pense effectivement à la chance que j'ai de pouvoir vivre avec, grâce à ce geste inestimable. Et je fais tout pour le bien entretenir et le conserver le plus longtemps possible.
Vous l'avez compris, nos organes sont des biens précieux qui peuvent sauver des vies, donc faites connaître votre position sur le don à vos proches. Merci Igor Strauss pour ce reportage réalisé lors du 6e colloque France-Maghreb sur la transplantation qui avait lieu en janvier dernier à Fès au Maroc. Une émission réalisée par Didier Bleu. Demain, on parlera des hémorroïdes, un sujet délicat, mais vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'intervenir sur ces questions. Vous pouvez donc dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, par téléphone au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. À demain.